Allez Julien, il est 15h, c'est place à Maintenant j'y vais, on n'attend plus que toi.
Si comme moi vous attendez ce moment toute la semaine, si dès que l'heure fatidique approche, vous augmentez le son, attachez vos ceintures, restez derrière vos postes de radio ou de vos smartphones, parce qu'il est prêt, il replace sa cravate, vérifie ses boutons de manchette, un dernier regard dans le miroir, le voici. Chaque mercredi après-midi, pendant une heure, découverte musicale et culturelle avec Julien. 15h-16h, maintenant j'y vais sur Radio Plus.
Hello, salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez avec prudence d'une liberté retrouvée, d'une forme de liberté retrouvée en tout cas, parce que cette liberté est toujours difficile à apprécier tant nous avançons masqués, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Au sommaire de ce numéro du 20 mai dans Maintenant j'y vais, votre magazine d'actualité musicale et culturelle, on va parler d'un métier pas toujours bien connu du grand public, celui d'attaché de presse, et il me tenait à cœur de leur consacrer une émission depuis que nous avons appris la signature d'une lettre ouverte par environ 100 attachés de presse auprès du CNM, le Centre National de la Musique, afin de tirer la sonnette d'alarme par rapport à la situation liée au Covid-19. Vous l'imaginez, la culture étant à l'arrêt, leur travail est aussi à l'arrêt et on en parlera dans quelques instants avec Elodie Savitch. Elodie est attachée de presse indépendante. Elle a fondé l'agence Singularité qui est basée à Losles-les-Lille. Elle fait partie des signataire de cette lettre ouverte et elle viendra nous présenter son métier par téléphone dans quelques instants. Elle a aussi choisi les titres que vous allez entendre durant cette émission. Et je vous propose d'écouter le premier d'entre eux. Il s'agit du groupe New Favorite avec un EP du même nom qui est sorti le 20 mars dernier chez Blast Distribution. Pardon. C'est un groupe de rock qui vous propose son single qui s'appelle Tapeworms.
Here I am, lady, now.
Favorite avec Tapeworm sur Radio Plus.
15h-16h, c'est l'émission Maintenant j'y vais avec Julien sur Radio Plus.
Et c'est tout l'inconvénient de ce genre de musique, c'est qu'avec le confinement, nos cheveux sont devenus plus longs, on n'a pas tous eu le temps de retourner chez le coiffeur et qu'on ne peut même pas être bangé, sauf chez soi, mais en tout cas pas dans une salle de concert. Ça n'est pas à l'ordre du jour, malheureusement.
La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Vous avez quelques minutes ? Ça tombe bien. Julien aussi. Maintenant j'y vais, le Zoom.
Sans eux, pas de nouveautés en radio, pas de possibilité de vous faire découvrir des artistes en interview, pas de gros coups aussi, car entre eux et nous, c'est une relation de confiance qui se construit avec le temps, et au fur et à mesure que la confiance se bâtit, on a aussi la chance du coup d'avoir quelques exclusivités. Ils connaissent le tissu des médias locaux comme personne, car ce sont des professionnels de terrain malgré un travail essentiellement de bureau, ce sont les attachés de presse indépendants. Et pour parler de ce beau métier, et pour parler aussi de leurs inquiétudes face à la crise, je reçois une attachée de presse de notre région. Aujourd'hui, elle collabore notamment avec le Main Square Festival, le Arras Film Festival. Elle représente les intérêts de nombreux artistes qui sonnent folk, blues, rock, metal. Elle vient tout juste de fonder l'agence Singularité et elle fait partie des signataires de la lettre ouverte que je vous expliquais en introduction. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Elodie Savitch. Salut Elodie.
Salut Julien.
Comment vas-tu tout d'abord après ces quelques jours où nous sommes restés coincés à la maison ?
Plutôt bien, écoute. C'est vrai que au départ c'était un peu complexe, mais je pense que ça a été assez universel. Hein. Je pense que tout le monde s'est adapté à l'inédit total, avec un contexte aussi assez anxiogène au départ, puisque effectivement nos métiers, mais aussi les états de santé, nos proches, enfin voilà, il y avait énormément de problématiques. Mais voilà, l'être humain s'adapte et là ça fait déjà un peu plus de 2 mois et et au final, on a mis en place des process, on s'est adapté, les petites familles aussi. Donc écoute, je te dirais que je vais plutôt bien aujourd'hui.
Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, tu es avec nous pour parler de ton métier, pour parler aussi de la crise économique qui impacte ton métier avec ce confinement qui a eu lieu et qui met encore la culture à l'arrêt. Avant de parler de tout ça, tu nous as aussi fait la programmation de l'émission de cet après-midi. On vient de passer New Favorite il y a quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire autour de ce groupe ?
Alors, New Favorite, c'est un EP, un premier EP, sachant que c'est des musiciens qui ont déjà un sacré bagage derrière eux, hein, donc ils n'en sont pas à leurs premières armes, mais par contre, c'était un nouveau projet, beaucoup plus rock, qui a une énergie folle, moi, à titre personnel, que j'adore, et que j'aurais adoré voir en live, mais tu l'as bien compris, j'ai pas eu l'occasion. Donc, c'est sorti le 20 mars, en pleine tempête. Et on a choisi de maintenir tous ensemble parce que les choses étaient déjà lancées, parce que les premiers articles étaient déjà tombés et parce que de toute façon, on avait tellement peu ou pas de perspectives sur l'avenir, sur les concerts à revenir, etc., les tournées, qu'à un moment donné, faut se lancer et quand même faire les choses si on veut exister. Donc du coup, le New Favorite est sorti dans ce contexte un petit peu hasardeux, il faut le reconnaître. Mais ça en sort quand même plutôt la main parce que définitivement artistiquement c'est un super groupe et du coup l'EP a été plutôt très très suivi en presse et bien relayé et je pense que de nombreuses personnes ont pu découvrir ça aussi durant le confinement et mine de rien c'était important je crois d'apporter des choses aussi des contenus aux gens durant le confinement voilà.
C'est vrai que la culture n'a pas été à l'arrêt, virtuellement parlant en tout cas, avec beaucoup de choses qui se sont produites. Il y a aussi des artistes et leurs équipes qui ont fait le choix d'attendre la rentrée, notamment pour défendre ça, parce que pour eux, eh bien, défendre un EP, c'était aussi défendre la musique sur scène. Il fallait donc attendre de voir quelles sont les perspectives. Mais il y a aussi, comme New Favorite, des groupes qui ont tenu à produire et à sortir effectivement un disque pendant cette période de confinement. Alors tu es avec nous pour parler de ton métier, mais dis-moi en quoi ça consiste le métier d'attaché de presse.
Alors il y a plein d'attachés de presse en réalité, mais qui font des métiers en fait au final très différents puisqu'on peut tous avoir des spécificités, des spécialités. On peut se spécialiser dans certains types de musique quand on fait de la musique, mais il y a aussi des attachés de presse culturels, il y a des attachés de presse dans le luxe, dans l'entreprise, donc si tu veux, au niveau des secteurs, tu peux avoir tout type de relations presse déjà. Et pour ce qui me concerne, à savoir effectivement la culture, moi en musique, je choisis de défendre que certaines esthétiques parce que c'est des codes que je maîtrise bien, c'est un réseau que j'ai. Et c'est des projets artistiques que j'affectionne. Et pour moi, c'est important de rester passionné et de m'emparer pleinement de l'artistique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à défendre des choses auxquelles je n'adhère pas, en fait. Voilà, donc je me considère pas comme une commerciale. On a un métier de relationnel et effectivement, on fait le lien entre artiste et presse. Mais pour moi, voilà, dans les métiers, en tout cas, de presse culture, il y a quand même une grosse dimension de métier passion. Donc ça, c'est une première chose qui différencie un petit peu d'attaché de presse dans d'autres domaines. Et puis après, dans le métier d'attaché de presse, c'est souvent mal connu de l'artiste parce qu'on arrive en bout de chaîne que un artiste, par exemple, va évidemment investir dans du matériel, dans une guitare, dans une pédale d'effet, parce que pour lui, l'investissement, il est évident. Le bénéfice retiré pour son projet artistique, il est logique et évident. Il va bien vouloir aussi mettre des sous dans un studio, un ingé son renommé, qui va donner une couleur à son mix, etc. Parce que, de nouveau, c'est de la technique, mais c'est de l'artistique. Et là, l'attaché de presse, en fait, c'est le maillon qui arrive après. C'est-à-dire qu'une fois qu'est sorti l'album, c'est pas le tout de faire une super œuvre, mais si elle est faite dans ton garage et que tu restes dans ton garage, personne n'aura connaissance de ton génie artistique. Donc, à un moment donné, notre rôle à nous, c'est de faire émerger via la presse, qui est là pour faire le lien entre public et artiste, de faire émerger donc ces projets parce qu'on les juge qualitatifs, bien produits, que souvent il y a une cohérence effectivement de tournée, donc il y a une cohérence de projet tout court, et on sent que c'est des projets qui peuvent émerger. Du coup, on s'en empare et notre rôle à nous, c'est de rédiger des communiqués de presse, de mettre à disposition le son pour les radios notamment, les clips pour les web TV, les TV, etc. Et puis d'organiser des sessions de promotion ou des temps de rencontre entre effectivement artistes et médias pour échanger autour sous la forme d'une interview. Voilà, donc ça c'est vraiment notre cœur de métier. Et nous, on travaille en général au moins un mois avant la sortie. Et ensuite, on accompagne le projet 3 mois, 6 mois. Après, tout dépend aussi de comment le projet vit lui-même. Est-ce qu'il tourne ou pas? Alors, moi, je sais que je prends pas de projet sans date parce que les dates, c'est la finalité. Mais, et puis, ça rapporte encore aussi d'autres retombées presse. Donc, pour moi, c'est vraiment important en termes de stratégie de tourner. Mais voilà, enfin, après, globalement, un attaché de presse intervient à minima 6 mois autour d'un projet. Voilà. Et l'aide à émerger et avoir des arguments aussi pour se faire programmer, puisque les programmateurs de salles, de festivals, sont bien sûr aussi à l'affût des retombées presse de l'artiste. Si l'artiste a des belles retombées, ils se disent que potentiellement il est mieux identifié, mieux connu, et qu'il peut remplir du coup leur salle. Voilà.
Et c'est vrai qu'aussi, dans une période où il y a beaucoup de productions musicales, vous avez cette capacité à filtrer justement l'information de par votre connaissance aussi du secteur des médias, parce que voilà, on sait par exemple que sur Radio Plus, on diffuse très très peu de musiques urbaines. Voilà, si tu en avais comme projet, tu sais que c'est pas vers nous spécialement que tu vas te tourner, par exemple.
Alors c'est ce qu'on appelle un peu vulgairement le ciblage. Pour moi c'est du bon sens. Alors après, je te dis pas que des fois on se trompe pas, mais connaître le média, c'est le respecter aussi. S'emparer de ses goûts, lui proposer des choses effectivement qui colleraient à ses goûts pour le fidéliser, lui donner envie de nous suivre, parce qu'il va se dire qu'artistiquement on a des affinités. Et c'est ce qui fera aussi que il voudra bien écouter un projet connu ni d'Ève ni d'Adam, parce que il aura confiance en notre jugement. Donc l'exigence qualitative, si tu veux, pour moi, c'est le premier truc, parce que si je veux fidéliser les journalistes qui veulent bien travailler avec moi, bah, il faut que je sois et que je demeure qualitative. Et effectivement, il faut que je cible leur goût. Donc oui, j'interviens sur plusieurs esthétiques, même si je fais pas des grands écarts non plus. Et effectivement, j'ai des fichiers qu'on dit qualifiés, c'est-à-dire réellement réunis autour d'esthétiques, de formats. Je sais très bien que telle ou telle radio, certains font de l'interview, d'autres pas. certains choisissent de diffuser des morceaux, certains ont des émissions spécialisées, donc ça sert à rien de proposer à la programmation générique. Et ça, oui, c'est un travail d'échange, de connaissance, d'histoire, de réseau. Et c'est pour ça aussi que les attachés de presse, les artistes font appel à nous, parce que cette connaissance-là, eux ne l'ont pas. Il suffit pas juste d'huile de coude. À un moment donné, c'est vraiment un boulot, un métier. Et c'est pour ça aussi qu'on leur facilite la visibilité et qu'on a des résultats.
15h17 sur Radio Plus. Élodie Savic, attachée de presse, est avec nous.
Maintenant, j'y vais avec Julien.
Alors, on va reparler de ton métier dans quelques minutes, mais là, on va s'intéresser aussi à la situation des attachés de presse indépendants qui sont en train de se fédérer pour se faire repérer, pour appeler au secours aussi les instances et particulièrement le ministère de la Culture par rapport aux craintes que vous avez, par rapport à votre situation économique qui est difficile. Il y a une lettre ouverte qui a été adressé au Centre National de la Musique pour faire part de vos inquiétudes. Notamment, vous craignez d'être exclu des dispositifs d'aide, c'est ça ?
Que les attachés de presse indépendants musique, on est 150 en France environ. Donc on n'est pas nombreux. On fait partie du chiffre d'affaires, bien sûr, de la culture, mais on n'est pas un pan de la culture majeur en termes de chiffre d'affaires. Et tu sais comme moi que ceux qui sont entendus, c'est aussi ceux qui pèsent, évidemment, dans le poids économique. Néanmoins, on est des maillons évidents de la chaîne, parce que là, moi je te parlais de disques et autres, mais je travaille aussi sur du festival. Les festivals ont besoin de visibilité. Ils font souvent appel à des attachés de presse qui vont gérer la presse, qui la mobilisent en amont, mais aussi qu'ils l'accueillent sur place. On gère les sessions promo, on fait le lien avec les artistes, les labels, etc. Enfin, donc, si tu veux, sans attachés de presse, il y aurait un sérieux manque en France. Et il y a des projets clairement qui ne pourraient pas aboutir, des tournées qui seraient moins suivies, des remplissages de salles qui seraient évidemment moindres. Voilà, donc les attachés de presse sont là, en sous-main, mais elles ne sont pas visibles. Parce que on est un métier de l'ombre, on n'a pas vocation à être sur le devant de la scène, c'est pas notre rôle, et c'est pas forcément ce dont on a envie en plus. La plupart, effectivement, on est toutes et tous derrière nos artistes et nos clients, et on est là en tant que conseil, stratégie, et finalement se fédérer, si tu veux, jusqu'ici, c'était pas une on a tous en plus souvent un emploi du temps un peu de folie, donc je t'avouerais que la fédération, s'il y avait déjà des échanges entre attachés de presse cordiaux, d'informations, etc., il n'y a jamais eu de syndicat, par exemple. Oui. Là, aujourd'hui, c'est évidemment en temps de crise que se révèlent aussi les manques. Hein, et effectivement, le manque de fédération nous est apparu évident parce qu'on a voulu se faire entendre. Mais au même titre, bon là, on parle d'attachés de presse, mais je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais il y a globalement une pétition très importante qui s'appelle les artisans du spectacle, qui fédère tous les métiers qui ne sont pas intermittents du spectacle. Parce qu'aujourd'hui, on entend les intermittents, parce que l'exception culturelle française, etc., etc., que c'est un statut propre à la France, qui est très connu et qu'on a souvent menacé, mais qui perdure. Donc voilà, donc le premier réflexe, ça a été de sauver les intermittents. Emmanuel Macron, dans son discours, la première chose dont il parle, c'est de l'année blanche des intermittents. Parce que les intermittents, c'est qui ? C'est les artistes et les techniciens.
Et on va préciser aussi, du coup, que vous n'avez pas ce régime d'intermittents. Vous êtes des indépendants, des freelances. Et donc, ça veut dire que pas de travail égale pas de rentrée d'argent. Il n'y a pas ce fameux quota des 507 heures.
C'est ça. Donc nous, si tu veux, on n'a pas vocation à rentrer sous ce statut intermittent, puisque le statut intermittent n'a pas été pensé pour nous. Donc ça me paraît très très logique de ne pas être intermittent. Mais du coup, les attachés de presse, finalement, c'est souvent des gens, alors qu'ils peuvent être ou en auto-entreprise ou en société. Moi, c'est mon cas, je suis en société depuis début d'année, mais sinon j'étais auto-entrepreneuse depuis 7 ans. Il y a des gens qui sont voilà, des travailleurs non salariés. Donc, on paye des charges, on paye des impôts, on travaille, on facture, nous ne sommes pas intermittents. Et là, le problème, c'est qu'en ce moment, bah, un pan de notre économie s'effondre, le spectacle. Avec lui, c'est toute la chaîne qui en pâtit, dont le disque, effectivement, puisque certains repoussent les sorties, etc. Donc, les attachés de presse, bah, voilà, tous les gens qui sont sur cette chaîne sont impactés. Et le problème, c'est qu'on n'existe pas. On n'est pas effectivement dans les cases. Donc aujourd'hui, on en appelle au ministère de la Culture qui s'appelait à une époque Culture et Communication. Nous aujourd'hui, on dépend de personne. Pourtant, on a quand même trait à la musique. Donc finalement, c'est vers le ministère de la Culture qui nous a semblé logique de nous diriger. Et plus particulièrement, le Centre National de la Musique, qui est une nouvelle instance, qui est l'équivalent aussi du Centre National du Cinéma, etc., dans d'autres disciplines, et qui réunit l'IRMA, le Bureau de Sport et le Centre National des Variétés. Donc, c'est tous ces gens-là gèrent les musiques actuelles en France. Et nous faisons partie donc de ce tissu, sauf qu'évidemment, nous n'avons pas de demande d'aide possible. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui attester que notre métier fait partie de la musique et solliciter une aide. Donc, si tu veux, vu qu'au début, il y a eu des aides de l'État global pour les entreprises, on a pu certains en bénéficier. Chômage technique partiel, l'aide de 1 500 euros, voilà, ça c'est tout type de secteur confondu. Ça a fait le job durant le confinement. Reste que maintenant qu'on déconfine, et sans savoir quand le spectacle reviendra, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut savoir, comment nous on fait pour subsister, parce qu'il y a une réelle inquiétude. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que notre secteur prenne le relais de l'aide qui était au départ l'aide d'entreprise. Alors attention, si on ne travaille pas, c'est évident que nous, on veut tous travailler, on ne veut pas demander d'aide en fait au départ. On voudrait pouvoir travailler normalement, mais si jamais on ne peut pas travailler normalement, vers qui peut-on se tourner pour solliciter une aide pour au moins perdurer et rester en vie jusqu'à ce que ça reprenne? Voilà.
Est-ce que vous avez eu des retours, justement, suite à cette mobilisation?
Alors, moi, je ne fais pas partie du comité qui a rencontré le Centre National de la Musique, mais effectivement, on a des échanges entre tous et on a eu des comptes rendus de la part de nos représentants. Ils ont été évidemment très bien reçus par le Centre National de la Musique, qui a tout à fait entendu, puisque derrière tout ce collectif d'attachés de presse, tu as des festivals comme Rock en Seine, tu as des gros producteurs de spectacles. Donc si ces noms-là ne peuvent pas laisser indifférent, à un moment donné, c'est une évidence qu'on fait partie de ce tissu, et le Centre National de la Musique l'a très bien reconnu et souligné. Après, il nous a évidemment invités à nous fédérer le plus vite possible pour qu'on sorte, parce que jusqu'ici, on n'était même pas une association. Donc là, c'est sur quoi on travaille en ce moment et très vite. En train de travailler sur un potentiel syndicat ou association, c'est encore en débat, mais en tout cas qui nous réunirait tous et toutes et qui permettrait derrière de parler au nom du collectif des attachés de presse indépendants musique. Voilà.
On va revenir en détail sur tout ça dans quelques instants, d'autant qu'on a des petits soucis pour t'entendre correctement. Alors on va revenir juste après un morceau de musique. Tu nous parleras de ce morceau juste après, le temps qu'on fasse nous nos petits réglages pour te récupérer au mieux. Voici Sun, I Kill My Man.
By month of May, there was no purpose in heaven. You stay and watch and you go on these smooth waves. It's a beautiful picture on a beautiful day. I killed my man. Yeah.
Sun avec I Killed My Man.
Maintenant j'y vais avec Julien jusqu'à 16h.
Et alors qu'on termine la première demi-heure de l'émission, puisqu'il est 15h29, on devrait retrouver, si tout va mieux, Élodie Savitch, attachée de presse, qui a fait la programmation musicale de cette émission. Alors Élodie, si tu es de retour avec nous et qu'on t'entend mieux, peut-être peux-tu nous parler de Sun, justement?
Alors, vérifions que tu m'entends mieux. Est-ce que c'est bon pour toi?
Ça m'a l'air un peu meilleur, ouais.
Bon, super. Alors, du coup, je vais enchaîner effectivement sur Sun. Alors, Sun, c'est un groupe assez atypique. C'est Caroline Rose, qui est une chanteuse émérite qui officie, comme vous l'avez entendu, aussi bien dans de superbes mélodies, mais qui gueule aussi et qui le fait extrêmement bien. Et c'est pas sans me rappeler une scène grunge que moi, j'affectionne beaucoup. Voilà, donc je suis vraiment tombée amoureuse de leur projet. Donc c'est un duo, un batteur et une chanteuse guitariste. Ils étaient au Transmusical cette année, donc voilà, à chaque fois ils font quand même, ils surprennent et ils font mouche. Alors ils ont sorti un EP en février. Et voilà, c'est quelqu'un qu'il faut suivre parce que je pense que c'est quelqu'un qui émergera, c'est une évidence. Elle a une culture, une technicité, et puis à la fois c'est vraiment un personnage pluriartistique. Elle fait aussi elle joue formidablement dans un spectacle qui a joué dans le Hymn d'Avignon quand même. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez talentueux, et j'avais à cœur de diffuser ce morceau parce que je l'aime beaucoup et que Caroline Rose, c'est l'une des rares chanteuses que j'ai, j'avouerai, en presse, parce que en rock il n'y en a pas tant que ça. Et donc, voilà, pour moi, c'était important aussi de faire découvrir Sun.
Comment ça se passe, justement, la rencontre avec un artiste? C'est ce genre de moment qui fait qu'on se dit, OK, j'ai envie de travailler avec lui, ou avec elle, en l'occurrence.
Alors, il y a plusieurs biais, hein. Ça peut être la scène, parce que, bon, la scène, encore une fois, c'est la finalité, et que moi, si je vois un groupe que j'adore en concert, j'ai aucun mal à aller le voir derrière et à lui dire, voilà, je sais pas si vous cherchez un jour un attaché de presse, mais si vous avez besoin de quelqu'un, je serais vraiment hyper ravie de défendre votre projet. Donc voilà, moi je marche au coup de cœur. Je vais raconter aussi une autre histoire, tu vois, par exemple, récemment, forcément, je suis à l'affût des médias, puisque je suis à l'affût aussi de Retombées Presse, logiquement. Et donc j'ai vu passer une avant-première d'un groupe que je connaissais pas sur New Noise. J'ai écouté parce que les influences citées me correspondaient pleinement et j'ai adoré. Et c'est un groupe de Clermont-Ferrand qui s'appelle Untitled with Drums, dont d'ailleurs j'ai programmé aussi un morceau durant l'émission. Et ce groupe-là, je les ai contactés aussi parce que voilà, j'ai vu qu'il n'y avait pas du tout d'attaché de presse, c'était un premier album. Donc je leur ai proposé une collaboration tout de suite parce que j'avais vraiment super envie de défendre une telle matière artistique, quoi. Donc soit ça marche comme ça, coup de cœur, mais moi je démarche pas, hein. Généralement c'est plutôt des gens qui ont, voilà, ont un projet de sortie d'album, qui me contactent en amont, qui ont entendu parler de moi par des tourneurs avec lesquels je bosse aussi, ou qui m'ont rencontré en festival, et qui me disent, bah voilà, le jour où on a une sortie d'album, on vient vers toi, donc ils me soumettent le son, j'écoute, si j'adhère, on discute ensemble d'une façon de fonctionner, et puis la collaboration du coup émerge. Si j'adhère pas, bon ben voilà, je les réoriente peut-être vers d'autres collaborateurs ou confrères en tout cas dont ce serait plus la matière artistique pour eux, quoi. Voilà.
Alors, dans ton parcours, t'as fait le choix d'être indépendante. Moi, j'aimerais que tu me parles un petit peu justement de ton parcours et de ces choix qui t'ont mené vers l'indépendance. Tu le disais, dans un premier temps, tu avais ton auto-entreprise qui s'appelait Hello Communication. Et puis, c'est devenu depuis quelques semaines, maintenant quelques mois, l'agence Singularité. Alors, si tu veux bien nous retracer un petit peu ton parcours, Élodie.
Alors, si vraiment je fais ça, je pense qu'on peut faire une très longue émission. Donc, du coup, je vais essayer de synthétiser. Moi, j'ai des études d'histoire de l'art. J'avais pas de boulot au lycée, tout ça, forcément, t'imagines bien. Mais par contre, j'étais une passionnée de concerts. J'allais voir énormément de concerts. J'avais beaucoup de copains musiciens. J'étais souvent dans les locaux de répète. J'ai même mis un petit groupe aussi à mon époque. Et puis, voilà, donc c'était vraiment une passion, la musique. Mais je pensais pas pouvoir en vivre, ça m'aurait. Et puis, à force de petits boulots un peu merdiques, à un moment donné, j'ai fait une petite école en 6 mois de communication culturelle.
qui m'avait envie de choper un stage dans un label, et c'était parti. Ça, c'était en 2004. Et puis, je suis restée salariée d'un certain nombre de structures. J'ai fait un peu de tout, agence de com en Cama aussi. J'ai bossé sur Cama au département musique, gestion des contenus musicaux, et on a créé des labels aussi. Et puis, ça, c'était mon dernier emploi salarié, et puis j'en ai marre. Parce que j'avais des envies, moi, de projet. Mes supérieurs ne me suivaient pas forcément toujours. Des fois, on me demandait des choses que je trouvais en plus pas stratégiques. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais vraiment un esprit indépendant, définitivement, et que je ne serais jamais heureuse avec une hiérarchie. Donc, j'avais besoin de m'assumer, moi, et d'être autonome. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis lancée. J'ai fait des relations presse. J'ai commencé à prendre des cours pour management aussi, parce que ça, c'est un autre temps de mon activité. Et puis, petit à petit, à un moment donné, à force de bosser, les gens te voient, c'est du réseau, et puis avec les années, tu te développes. Et donc, j'en suis arrivée à la volonté de fonder une agence, parce que je travaille souvent avec des gens désormais, que je suis plus toute seule, que c'était une évidence pour moi de trouver un nom d'agence qui réunirait tous mes clients, qui sont un peu atypiques aussi. Parce que si la majeure partie de mon activité, c'est la musique, comme tu disais en préambule, j'ai aussi la Ratio Festival et j'adore travailler pour eux. C'est un projet passionnant. Alors là, j'accueille Emmanuel DeVos, Jean-Paul Roux. Enfin, c'est pas du tout le même boulot, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Je fais le lien entre la presse et les artistes. J'ai à cœur de les accueillir bien. Et finalement, singularité, ça me permet de réunir tous les projets que j'ai envie, moi, de défendre. Comme ça, je peux pas. Si j'ai envie de ne pas me restreindre, je peux le faire. Voilà. Donc c'est un peu l'ambition et la démarche. On va continuer de se développer dans ce sens et un peu plus encore aussi en région, parce que on a une super région avec un dynamisme culturel énorme. Et je sais que moi, je travaille beaucoup en national, voire en international, mais j'aimerais bien aussi travailler un petit peu plus en région.
Et le souhait, on espère qu'il sera entendu. Et puis, on sait qu'il y a aussi des musiciens, des chanteurs, des groupes qui sont à l'écoute de cette émission. Peut-être auront-ils envie de faire appel à tes services. Alors, on continue aussi de présenter les artistes que tu défends. On va écouter un autre morceau dans un instant. Mais avant de reparler boulot, en quelque sorte, moi, j'aimerais que tu nous parles de tes coups de cœur du moment hors boulot, parce que t'as pas encore eu l'occasion de travailler avec ces artistes-là, soit parce que c'est des esthétiques qui ne correspondent pas à ce que tu défends dans Singularité. Voilà, quels sont un petit peu tes coups de cœur hors du cadre professionnel?
Alors, hors du cadre professionnel, en fait, c'est un peu compliqué parce que, en vérité, je travaille vachement des coups de cœur en professionnel. Donc, si tu veux, en coup de cœur, par exemple, je reviens à un Title of Drums ou à Dust Lover qui sort l'album aussi le 15 juin. J'ai des vrais coups de cœur, j'adore, je les écoute moi dans la salle de bain. Enfin, voilà. Donc c'est au-delà de la matière première d'un boulot, si tu veux. C'est vraiment pour moi des coups de cœur, des choses que j'écoute dans ma voiture. Enfin voilà. Donc il y a déjà tout ce pan-là. Après il y a des groupes indétrônables, mais pour lesquels je travaille aussi en fait sporadiquement. Mais on s'occupe par exemple du community management des Tambours du Bronze, de Black Bombay, de Loudless, ça c'est des groupes que j'adore. Des managers, j'ai été longtemps un manager, je peux me faire plus plaisir que lorsque tu me mets devant une scène avec Hangman. Voilà. Après en région, tu vois, il y a des artistes avec lesquels évidemment je bosse pas, mais genre Tenga, c'est un super groupe. Que j'ai vu plusieurs fois, Queen Ares aussi. Après, j'envoie tellement des concerts, j'imagine que je ne reçois pas tout, mais des coups de cœur, genre. Alors, est-ce que j'ai le temps aussi de la découverte autant que je le voudrais? Je pense pas quand même, parce que c'est vrai que les journées sont denses. Mais et puis, moi, je découvre beaucoup par la scène, et en ce moment, je bouge moins de chez moi, si tu veux. Donc j'ai pas ce biais de découverte, mais globalement mon quotidien est énormément en musique, et puis ça passe aussi par tous les groupes. Là, je travaille par exemple pour d'autres attachés de presse, donc au Main Square, tu l'as dit, mais aussi au Hellfest. Et le Hellfest, c'est pareil, c'est toujours moi la playlist du Hellfest, ça me permet toujours de découvrir tous les ans des pépites, quoi. Tous les ans. Donc d'ailleurs il y a la playlist en ligne sur Spotify du Hellfest 2020, hein, puisque il reste que ça maintenant. Donc si vous voulez aussi donné l'opportunité de faire de belles découvertes, je pense que vous pouvez volontiers consulter cette liste.
Eh ben on note tout ça et puis nous on va se retrouver dans quelques minutes pour conclure cet entretien ensemble. Je vais te laisser le choix entre l'un ou l'autre des titres que je vais annoncer, entre Dust Lover et Les Tambours du Bronx.
Ah ben là c'est un dilemme cornélien, hein. Bon, écoute, je vais choisir Les Tambours du Bronx parce que c'est le seul groupe. Là c'est un featuring avec Renaud Lefaux, on travaille tout à l'année et ça voudrait que c'est le seul groupe en français. Donc la francophonie c'est important aussi, il y a des gens qui savent écrire des textes en français. Donc pour cette raison, et Dust Lover, alors ils sont le 15 juin, donc je vous invite à venir voir notre page Facebook, vous aurez toutes les infos et la matière. Mais en tout cas, privilégions Les Tambours parce que Les Tambours c'est un grand indémodable. C'est super efficace en live, je les ai revus encore en métaphone à Wani en février, c'était génial. Et Renaud Lefaux, bah, c'est une plume, quoi. Donc, allons-y.
Eh ben, on écoute Les Tambours du Bronx sur Radio Plus dans Maintenant J'y vais.
Oh,
Et ça secoue hein, dans Maintenant j'y vais cet après-midi en ce mercredi 20 mai. Ça c'est normal, c'est parce que on a Élodie Savitch avec nous qui est attachée de presse et qui est l'une des attachées de presse spécialisées, on va dire ça comme ça, dans l'univers métal, dans l'univers des grosses guitares saturées et des tambours qui tapent comme les tambours du Bronx. C'était avec Renaud de Lofofora et Frankie Costanza et le titre s'appelait Mirage éternel. Élodie est toujours avec nous et on parle de ce métier d'attaché de presse. Les qualités pour être un bon attaché de presse, Élodie, quelles sont-elles ?
La ténacité. parce que on sollicite des gens, qu'on relance, et puis on essaie d'obtenir des réponses. Et ça, mine de rien, il faut quand même s'armer de ténacité. Donc un bon attaché de presse, c'est quelqu'un qui sait relancer, sans harceler, évidemment. Et c'est quelqu'un qui aussi, évidemment, je pense, communique sa passion. Donc, qui sait parler de ses projets, qui les connaît. Il y a des gens qui font de l'usine. Hein. Moi, je sais que c'est pas mon cas. J'essaye encore de rester dans le propos artistique et de bien maîtriser celui-là. Je pense que ses qualités, c'est ça. Et puis le réseau, hein, le développement de réseau. Hein. Il y a, à un moment donné, ça, c'est valable dans tous les boulots, plus ou moins. Mais dans votre travail de relationnel, ça me paraît évident, quoi.
Je plaide coupable pour la ténacité parce que je suis pas le plus rapide à répondre et à traiter mes demandes d'écoute. J'en ai conscience, mais on en a beaucoup à faire et avec un temps qui manque cruellement parfois, mais on essaie d'oublier évidemment personne et on est bien content effectivement de recevoir aussi.
On est conscient hein, de la somme de sollicitations que vous subissez parfois quand même. Hein, faut être honnête, hein, il y a cette histoire entre les presse et journalistes qui est un peu des fois des jeux de moi non plus, mais honnêtement, c'est clair que vous êtes submergé et on essaye aussi de évidemment justement quand je dis pas vous harceler, c'est pour que la collaboration soit agréable pour tous. Voilà.
En tout cas, avec singularité, je le dis, elle est extrêmement agréable et c'est important aussi de souligner. C'est aussi pour ça hein, que on tenait aussi à souligner le travail des attachés de presse indépendants. Alors là, on a pris l'exemple de l'agence Singularité parce que Élodie est basée dans le nord de la France, que ça permettait aussi d'avoir une attache avec notre région parce qu'on défend aussi ce qui se fait dans notre région sur cette antenne. Mais voilà, il y a beaucoup d'attachés de presse avec qui on travaille et avec qui on est évidemment très très content de travailler. J'en profite pour saluer Roman Monnier de l'agence Shaker. J'en profite pour saluer Nicolas Imbergent qui notamment a à sa charge la communication du festival du Cabaret Vert à Charleville-Mézières et tous ceux que je ne vais pas citer parce que sinon la liste serait extrêmement longue. Et on tenait vraiment aussi à mettre en lumière votre métier et puis à mettre en lumière les difficultés que vous rencontrez en ce moment. Et on l'a dit, hein, vous fédérez pour la première fois. Alors ça s'est fait un peu dans l'urgence parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a 98 signataires dont tu fais partie de cette lettre adressée au CNM. Mais quand j'ai commencé à préparer cette émission et à préparer ces interviews, j'ai essayé de prendre contact avec différents attachés de presse indépendants avec qui j'ai l'habitude de travailler aussi, outre toi. Et beaucoup me disaient mais en fait on n'a pas signé parce qu'on n'a pas eu le temps de répondre, tout s'est fait très vite. Il y a aussi les attachés de presse du cinéma qui se sont fédérés aussi dans un collectif à part qui s'appelle le CLAP notamment. Est-ce que finalement il y avait urgence à se fédérer ou est-ce qu'il aurait peut-être fallu aussi peut-être un peu mieux attendre et rassembler tout le monde et avoir un peu plus de poids?
C'était une lettre. Hein. Donc aujourd'hui, tous les attachés de presse sont sollicités. De toute façon, ils étaient tous après. Ils n'ont peut-être pas eu le temps de répondre ou voulu répondre, mais ils ont tous été informés. Hein. Après, ce qui est une réalité, c'est que les commissions du ministère de la Culture étaient en cours fin avril pour déterminer les aides. Donc à un moment donné, c'était là, quoi. Un jour près, on loupait le créneau. Donc non, je pense que l'urgence était parfaitement justifiée et justifiable. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la nouvelle instance soit représentative de tous les attachés de presse, quel que soit leur chiffre d'affaires, leur spécialité, leur niveau spectacle ou discours, etc. Et donc, pour ça, il faut qu'on trouve tous un terrain commun d'entente. Ça fait débat en ce moment, hein, je ne te le cache pas, mais c'est normal, c'est plutôt sain. Et l'idée, c'est justement pour faire un outil démocratique qui rassemble tout le monde. Donc, je pense que d'ici là, tous les attachés de presse auront en tout cas eu le choix d'atterrir ou pas, après les bras, hein. Mais la fédération, si on perdait une semaine de plus, sachant que les gens ont quand même une semaine, hein. Si on perdait une semaine de plus, on existait définitivement pas dans le débat. C'était trop tard. Le Covid, la crise du Covid, à un moment donné, c'est pas nous qui planifions le calendrier et on est bien obligé de réagir au plus vite possible. Donc moi, je pense que cette rapidité était nécessaire.
Donc effectivement, il fallait aussi réagir vite et c'est important de le souligner. En une minute, ta plus grande fierté en tant qu'attaché de presse, c'est quoi ? C'est parce que je t'ai laissé 2 minutes de réflexion, mais c'est 1 minute pour développer la réponse, oui.
ma plus grande fierté, c'est un peu les festivals aussi. Parce que les festivals, on se donne, on dort très peu, on bosse des heures, on court dans tous les sens. On fait des dizaines de kilomètres à la journée. Et au final, les artistes repartent généralement vraiment tous heureux. Et la presse aussi. Et moi, j'adore la fête parce que c'est un gros coup de cœur. Et la scénographie, l'ambiance familiale, etc. Donc ça, voilà. Mais je me suis occupée aussi du download pour Live Nation pendant 2 ans. Et j'ai adoré le challenge. C'était les Guns, c'était les Foo Fighters. C'était voilà. Donc les festivals aujourd'hui, j'en parle beaucoup tout le temps aussi. Bon, la Racine Festival, c'est différent, mais c'est finalement la même logique. Les festivals, on se dépasse. Et quand on a fini, je pense qu'on est quand même fiers de nous, légitimement, parce que voilà, on a contribué à faire émerger un événement qui était fou. Et pour moi, voilà, je ne veux pas désigner un festival, parce qu'ils ont tous leurs problématiques, mais les festivals, c'est quand même un sacré challenge. Et moi, ça me fait vibrer. Donc, je suis très fière de ça.
Et on est accueillis, c'est vrai, comme des rois au Main Square Festival en ce qui concerne la presse. C'est aussi important de le dire. Et on a beaucoup de regrets à ne pas y être cette année. Et on se donne évidemment rendez-vous en 2021 si tout va bien d'ici là. Élodie, un grand merci d'avoir été notre invitée dans Maintenant J'y vais. On va terminer cette émission. Je rappelle que tu es attachée de presse indépendante, que tu as fondé l'agence de presse Singularité qui est basée dans notre région et que on peut retrouver toute ton actualité sur la page Facebook, notamment Agence Singularité, au pluriel en ce qui concerne Singularité, pour suivre un petit peu les artistes que tu défends et notamment ceux que tu nous as présentés dans cette émission. On va écouter un dernier titre et je vais te faire plaisir. C'est celui de Dust Lovers que je te laisse présenter en 30 secondes pour conclure cette émission.
Dust Lovers, c'est une musique très cinématographique. D'ailleurs, ils ont fait des BO de la série Marianne, notamment, qui sont Netflix. Et c'est très cinématographique, c'est très groovy, et il y a un côté crooner dans le chant très maîtrisé, il y a des ambiances très fortes, et il y a un clip qui va, sur ce morceau qui va sortir sous peu, l'album sort, il est en précommande aujourd'hui, et il sort le 15 juin, vous pouvez aller voir ça sur leur page Facebook, on vous donnera les liens, et Goldie, voilà, c'est un morceau atypique dans l'album, et c'est vraiment un groupe de live très rock'n'roll au départ, mais qui s'est vraiment créé des ambiances formidables, quoi.
Eh bien merci, on va écouter ça dans quelques secondes. Le temps pour moi encore de te remercier d'avoir été notre invité et de donner rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, même endroit, même heure, même punition pour un nouveau numéro de Maintenant J'y vais, avec toutes nos excuses pour les petits soucis de son que l'on a pu avoir pendant cette interview. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a finalement encore beaucoup de gens en télétravail, des réseaux qui sont encore saturés. Ça impacte avec regret sur la qualité du son, mais on espère en tout cas que vous avez parfaitement compris le propos et les enjeux qui ont été présentés dans cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on se quitte avec Dust Lovers. Voici Goldie sur Radio Plus. Très belle fin d'après-midi. Portez-vous bien, restez heureux. Ciao, bye bye.
She was always drawn to the darkness like a brute force from within, and the path she took was straight from a book in which no one dared to look. And she was always dressed in black, squeezed in the tightest leather, like drawing a line between her and the crowd.